des carottes, des poireaux pour la soupe.
Mangez des cèpes, des girolles, des trompettes de la mort. Profitez, mesdames.
Europe 1. 11h, midi 30, la table des bons vivants.
C'est formidable parce que on découvre une autre facette des invités et c'est toujours une très jolie facette.
Laurent Mariotte.
Ah ben on essaye, c'était Evelyne Delia qui était avec nous la semaine dernière. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Des agriculteurs, des artisans, des chefs, des amoureux de la fourchette, c'est ici que ça se passe pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Alors aujourd'hui, on va vous donner le goût du voyage. Inspiré par la route de la soie, le chef Akram nous invite à oser les épices et les saveurs exotiques. Rendez-vous avec une belle cuisine métissée dans un instant. Ce samedi, c'est le retour de Tonton Jean-Luc. L'ami Jean-Luc Petit-Renaud vient nous retrouver. Il est allé voir la jeune garde en cuisine et il en a sous le pied la jeune garde. Mes bons vivants sont là. Elle nous fait voyager de cuisine en arrière-cuisine dans les pages du journal du dimanche chaque semaine. C'est Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
Comment ça va?
Bien et vous? Très, avec toutes très ces bien. Belles facettes des
vous
invités.
Avez, vous avez un très très beau chemisier, très coloré. Oui.
Flashy.
Ah, oui, ça fait du bien. Il ose tout, il n'a pas peur des mélanges détonnants, il réussit toujours ses associations mets vins. Il nous en fait profiter aussi dans la revue du vin de France. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Charlotte, bonjour Laurent.
Olivier.
Et vous verrez qu'en matière d'accord mets vins, aujourd'hui vous ne m'avez pas... Oui. Faciliter la tâche.
Ah bah on va dire à nos auditeurs, je vous lance un défi. On va vous demander d'accorder le poireau et le rouge.
Ouais, et moi, j'ai un autre défi pour vous tout à l'heure. Je vous ferai chanter. Tiens.
Ah, bah oui, bah ça, vous n'allez pas être déçus.
Vengeance.
Et Christophe, à propos de chanteur, on va faire venir un professionnel. C'est mieux. Christophe Willem vient partager le plat du jour avec nous. C'est parti. Allez, on ne change pas nos habitudes. Votre goût de la semaine, posez-vous la question en nous écoutant. Quel est le goût qui a marqué votre semaine? Une recette, un produit, une rencontre au marché peut-être, Charlotte Langrand?
Ah, c'est un goût sucré parce que je ne loupe pas une occasion de parler des pâtissiers qui respectent les saisons et qui ne font plus des choses hors saison et qui en plus désucrent un peu les pâtisseries, ce qui va dans le sens de l'époque. Donc là, je voulais vous parler de l'épatant Paris-Brest et de la tarte aux figues de Claire Etzler.
Claire Etzler, grande pâtissière qui a fait de grandes maisons. Elle était chez Lasserre.
Oui, Trois Gros, La Durée, Ducasse. Et elle a sa pâtisserie en ligne, qui est aussi un atelier à Levallois-Perret dans le 92. Et vous pouvez vous offrir ces pâtisseries qui sont livrables ou dans son atelier. Et vraiment, la petite tarte aux figues, vous voyez.
On va les chercher dans l'atelier, vous voulez dire
Oui, vous pouvez aller les chercher sur place ou vous les faire livrer dans toute la région.
Ah, bien.
Voilà. Et vous avez dans cette petite tarte aux figues une marmelade de figues, des figues fraîches et un miel floral du Japon. Ah. C'est une petite douceur pour bien rentrer dans l'automne. Moi, je pense que c'est pas si mal.
C'est la saison, mais j'adore la figue. On peut en profiter encore un
voilà.
moment. Votre goût de la semaine, Olivier?
Bah dans le générique, on nous a dit de manger des cèpes, alors c'est ce que j'ai fait.
Que pour les dames, il a dit d'ailleurs. Ah, allez-y, mesdames.
Allez-y, mesdames. Et je me sentais concerné quand même. Donc, c'est une recette un peu originale que j'ai faite avec des cèpes. Je les ai coupés en tout petits morceaux de la taille de granerie et j'ai fait un cèpoteau. C'est-à-dire que je les ai cuits dans un tout petit peu de bouillon de volaille. Très 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 peu de temps. Il faut garder le côté al dente, hein. Vraiment 30 secondes. Du parmesan, une petite cuillère de mascarpone, du persil, et on les sert comme ça.
Inspiré du célèbre céleri risotto d'Alain Passard, il fait ça avec du céleri.
Hein. Moi, je fais ça avec des cèpes.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les cèpes, je pense à vous parce que je sais que ça vous met en joie quand cet automne arrive.
Et il y en a beaucoup cette année. Hein.
Et ils sont pas trop chers. Mm-hmm.
Mon goût de la semaine, il est très simple. J'ai fait un petit tour dans les Vosges cette semaine.
Ah, tiens.
Une truite d'élevage de Xertigny, c'est une petite commune vosgienne. Une voisine aimable qui m'a donné des pommes de terre. Je les ai faites rissoler juste dans de l'huile d'olive, un petit peu de sel à la fin. Et pour réunir le tout, j'ai mis quelques graines de colza. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux graines de palvo. J'ai mis ces graines de colza, c'est très très bon. Ça fait un petit peu de croquant sur les pommes de terre rôties. Et avec le fondant de la truite, eh ben, c'était pas mal. Voilà, c'est l'heure d'aller au marché les amis. Et pas n'importe lequel, celui de la crème des artisans français. Lundi dernier se tenait la grande journée annuelle du Collège culinaire de France à Paris. C'est un collectif, hein, vous savez, de producteurs et de restaurateurs de la France entière. Leur point commun, vraiment, et ils ne se trompent pas, hein, c'est l'artisanat de qualité. Rencontres et ateliers de cuisine autour d'une centaine de produits français. Au micro de Julien Amat.
Aujourd'hui, on a fait une tostada d'escargot et ça ressemble à une sorte de taco, donc c'est une sorte de mini-crêpe, disons. Les escargots, ils viennent des Hauts-de-France. Tous les producteurs qui nous ont fourni des ingrédients donc, sont venus tester les tostadas.
Ils sont super bons. Je suis pas très impartiale, mais ils sont super bons. Quand le chef est en train de cuisiner, moi, je suis en train de bosser à la ferme. Donc c'était génial, là je les ai goûtés d'une façon vraiment très très atypique, qui sort du beurre à l'ail qu'on a l'habitude à Noël chez la grand-mère quoi.
Finalement les meilleurs interlocuteurs c'est les restaurateurs et les maraîchers, on arrive à parler très bien entre nous.
Tous les vendredis matin, on prend notre camionnette et on se met en route pour livrer des cassis qu'on a cueillis de bonne heure le matin. Et ça tombe bien parce que nous, les chefs qu'on livre, eh ben, ils sont derrière leur fourneau dans les cuisines. Ils sont contents, souvent ils nous payent un petit café.
Le menu des chefs aujourd'hui, ça va être une gaufre à la bretonne, au sarrasin. Et on a accompagné ça d'une glace à l'oignon de Roscoff.
C'est tout doux. Et c'est le côté sucré de l'oignon de Roscoff qui est extraordinaire, quoi. Ah, ils ont des bons produits en Bretagne quand même. Du coup, je vais aller ramener des collègues pour leur faire goûter parce que c'est vraiment très très bon.
Ah, on est gâtés en France. Mmh. Et c'est vrai que, ouais, quand on l'entend, hein, rien de tel que ce lien direct entre les producteurs et les chefs cuisiniers. Et n'oublions pas le rôle d'ambassadeur qu'ont tous nos chefs cuisiniers pour promouvoir comme ça des produits et des variétés, même parfois qui sont oubliées. Hein.
Que vous pourrez retrouver, n'hésitez pas à aller les trouver sur le site du, oui, CCF, hein, collègeculinairedefrance.fr, parce que c'est vraiment facile. Et puis voilà, comme ça, on découvre plein de choses.
Il y a une petite plaque même, hein, quand vous allez dans un restaurant, que vous voyez cette plaque Collège culinaire de France, en général, vous pouvez rentrer en toute confiance parce que, comme on dit, ce sont des adresses très très bien sélectionnées. C'est très exigeant, hein, la sélection du Collège culinaire
Absolument.
De France.
Absolument. Et à l'opposé de ça, d'ailleurs, si vous avez un tout petit peu de temps, regardez en replay le fabuleux reportage Hypermarché, la chute de l'Empire.
Ah, oh, j'ai vu la fin sur Arte cette
et
semaine.
Voilà. Et c'est en replay sur Arte. C'est assez affligeant, ah oui, de voir à quel point aujourd'hui, acculé, les grandes surfaces continuent à presser le citron de nos amis les agriculteurs, producteurs et agriculteurs. Il est vraiment temps de réagir.
C'est
et
tout comme, le contraire, ouais, du circuit court.
Et
oui,
comment eux ont eux-mêmes peur de se faire manger par, ouais, plus gros, par Amazon, etc. C'est assez affligeant, effectivement.
Allez, après tout ça, un petit peu de légèreté, les amis. Jouons, vous le savez, cette année, on joue avec des bruits de cuisine. À vous de reconnaître une action ou un ustensile de cuisine. Un potager d'intérieur est à gagner aujourd'hui. On écoute notre bruit. Un mode de cuisson, hein, je le redis, ce n'est pas le wok qui était proposé la semaine dernière, ce n'est pas la friture, elle est déjà passée par là, la friture, c'est un autre mode de cuisson qui nous a accompagnés de nombreuses semaines, ai-je pu dire, la semaine dernière. Jouez au 39-21 ou sur Europe 1.fr.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Canette aux épices et pétales de rose, ceviche de bar et jus de grenade, donuts à la rose, Akram Benalal n'a pas de frontières dans sa cuisine. Chef étoilé à la tête de 6 restaurants, il vient de publier Shirvan, un magnifique livre qui raconte sa philosophie de la cuisine en recettes. Et pour lui, vous allez entendre, tout peut s'assembler du moment que c'est bon. Bonjour Akram.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On est d'accord avec ça ?
On est absolument d'accord.
C'est vrai, vous osez, ouais, les mariages inattendus. Hein.
Oui, j'ose. J'aime bien mélanger les saveurs, mélanger les pays aussi. Et je trouve ça magnifique parce qu'il y a plein d'histoires à raconter.
Alors vous envoyez du pays, on va en parler, ouais, parce que vous avez des restaurants à Paris, bien, ouais, entendu, mais dans le monde entier aussi. Je rappelle à nos auditeurs, hein, votre parcours, vous êtes né en région parisienne, vous, ouais, grandissez à Oran en Algérie,
oui,
vous êtes chef étoilé à la tête des restaurants Akram à Paris et Shirvan à Paris, Marrakech et Doha. Votre livre qui s'appelle Shirvan, bah c'est un vrai condensé de saveurs et de recettes métissées, hein, je trouve. Il a écrit d'ailleurs avec Philippe Tonnard, qui a son rôle,
oui,
serviette,
absolument,
à cette,
ouais,
table, paru chez La Martinière. C'est un récit de voyage et en même temps, c'est un plaidoyer, je trouve, pour l'audace en cuisine. Il ne faut pas avoir peur d'oser des mariages qui peuvent faire peur, même parfois sur le papier, quand on vous lit.
Oui, absolument. Alors après, c'est vrai que quand j'ai décidé de faire ce livre, c'était aussi ma manière de dire, voilà, ayez de l'audace dans ce que vous faites. Mettez des épices aussi, parce que les épices, c'est quand même une science qui reste quand même pour beaucoup difficile. Parce que bon, quand, oui, on épice trop, par exemple, un plat, on peut tout de suite avoir une saveur qui l'emporte sur l'autre. Là, c'est des plats qui sont faciles à faire, qui tiennent une promesse, celle du voyage. Et surtout, ce mélange de saveurs avec par exemple la mélasse de grenade, le tahini, pour moi aussi, ça a été une découverte. Et je me suis intéressé à ça de mon ADN, de là d'où je viens, mais aussi de pouvoir mettre ça au service de tout le monde, quoi.
Depuis quand, ouais, les épices font partie de votre quotidien en cuisine? Comment vous les avez apprivoisées, toutes ces épices?
J'ai grandi avec. D'abord, la cocotte minute qui siffle à Oran, les parfums quand je me promenais, de jasmin, d'orange, ma mère aussi, enfin les marchés.
Quelles épices elle cuisinait,
beaucoup,
votre maman?
Alors, les épices, d'abord, ça, on en avait dans les plats, mais aussi c'était une manière, quand on était malade, on prenait que des épices. Ma mère me, voilà, quand j'avais mal au ventre, elle nous faisait un thé au cumin Par exemple, quand on avait, je ne sais pas, mal au crâne, elle nous faisait aussi des serviettes qui étaient mouillées, imbibées de, d'eau de fleur d'oranger. Et c'était merveilleux parce que tous ces parfums-là font partie de mon enfance.
Oui, quand vous dites les épices, d'ailleurs, c'est large. Ce ne sont pas que les épices, que les graines moulues. Oui. Vous parlez, hein, ça revient, vous en parlez là, du tahini. Vous parlez de tout ce qui parfume et de tout ce qui donne du relief à notre cuisine, en fait.
Oui, et ça donne du relief, ça donne du voyage et ça émoustille un peu les papilles, je trouve.
Quel souvenir culinaire vous gardez de cette époque à Oran avec votre maman et votre famille en cuisine?
Bah, disons que le partage déjà, puis surtout il y avait quelque chose, c'est que ma mère elle en fait toujours pour 10, et on est même si on était 5, elle avait toujours pour 10. Je dis mais pourquoi tu fais autant? Elle me dit toujours on sait jamais, la porte est ouverte, on sait jamais qui peut arriver. Et j'ai grandi comme ça. Cette générosité fait partie aussi de cette cuisine, justement.
Alors ce livre qui s'appelle Shirvan Akram, c'est le sous-titre, hein, je le lis, c'est « Voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes ». C'est votre route de la soie un petit peu inventée parce que vous faites quelques petits détours. Hein. On va être en Azerbaïdjan.
Vous ne tirez pas tout droit. Hein.
Non. Quels sont les pays que vous traversez justement? Racontez-nous.
D'abord, c'est l'Azerbaïdjan. Ensuite, c'est la Turquie. Istanbul, moi, j'adore. Le Maroc, l'Algérie, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Grèce. Enfin, ça rassemble. L'Italie, l'Espagne. L'Égypte, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire de se faire sa propre route.
Il y a un point commun entre toutes ces cuisines ou pas?
Il y a un point commun, absolument. Il y a un fil conducteur. Ce qui est très drôle, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait certains plats qui se ressemblaient beaucoup. Alors après, nous, ce qu'on a fait, c'est-à-dire de retravailler ces plats-là, en lui mettant plus de légèreté, moins d'épices. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les plats, par exemple, que j'ai mangés en Inde, si je les refais ici, c'est pas possible, c'est pas au niveau
pas
du palais. Exactement. Donc, on a dû tout rehausser, tout réajuster. Tout ça avec une bienveillance du bien manger.
Mais justement, au-delà des querelles parfois de paternité qu'il peut y avoir sur où est né certains un plat, qui l'a inventé le premier, etc., on se rend compte certainement justement dans ce livre que les voyages, quand on va de pays en pays, il y a des cousinades. En fait, les plats se ressemblent, se parlent un petit peu entre eux au-delà des frontières et que du coup, ça vous autorise à réinventer un peu les choses et à faire des associations. Pas forcément strict, mais à faire jouer votre imagination.
Absolument. Donc c'est pour ça que l'audace fait partie aussi de ce livre, d'essayer de mélanger. Par exemple, le tadik, qui est un plat, on va dire, phare iranien.
Un riz coloré, safrané.
Safrané, croustillant, ça ne touche pas. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez protégé. Et c'est vrai que j'ai des clients, une clientèle iranienne qui vient manger au Shirvan. Et à chaque fois, je leur pose la question et moi, j'ai toujours peur d'avoir le verdict. Ils me disent c'est super parce qu'on l'a retravaillé. C'est-à-dire qu'on a rajouté des raisins secs dedans. Il y a toujours du safran. On a mis de l'eau de fleur d'oranger et des amandes. Du coup, ça donne un rite edek qui serait presque entre le dessert, le sucré salé, mais juste comme il faut.
Il y a une épicerie commune entre tous ces pays, entre toutes ces cuisines. On parle du safran. Oui. On pourrait dire aussi des fruits secs.
Hein, bien sûr.
Le cumin.
Cumin. Absolument.
Cardamome noir,
j'adore.
C'est quoi ça, la cardamome noire?
La cardamome noire, c'est une cardamome qui est un peu plus grande que la cardamome verte et qui a une odeur fumée. Et j'adore le fumé. Alors voilà.
La grenade.
Et la grenade aussi.
On le voit dans les restaurants d'ailleurs inspirés de la cuisine méditerranéenne. On met de la grenade partout maintenant.
Et vous savez que la grenade, c'est un symbole qui est très très fort. Hein. C'est un symbole de santé, de bienveillance. Ça veut dire beaucoup de choses.
Antioxydant.
Et antioxydant, absolument.
Beaucoup de propriétés pour la santé.
Oui, pour notre prostate, je crois que c'est bon aussi, comme le lycopène de la tomate. Non, mais tout va bien. Mais il faut
anticiper. Le Les épices, c'est pour ça que j'en parle, c'est que nous, on torréfie, c'est volontaire, parce que ça donne un goût différent. Ça modifie l'épice.
Oui, et vous en parlez, ça a de l'importance de la torréfaction dans les recettes. Et votre maman, Louisa, on va en parler de votre maman, parce qu'elle a été très importante dans votre parcours culinaire. Elle osait aussi beaucoup en cuisine, on va en parler. Et vous pensez qu'on n'ose pas assez à la maison, au quotidien, à sortir des sentiers battus?
Absolument, on n'ose pas de faire des mélanges de saveurs, par exemple. Et c'est vrai que moi, ma mère, je l'ai toujours vue se remettre en question. C'est-à-dire que les plats traditionnels qu'elle nous faisait, elle se disait toujours, je vais mettre moins de gras, je vais enlever certaines choses et remplacer par d'autres. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et c'est ça qui m'a peut-être donné aussi cette audace et cette confiance aussi que j'ai de faire ce que je fais aujourd'hui.
Eh bien, osons en cuisine. On va passer aux travaux pratiques avec Akram, qui est avec nous encore un moment. Il est venu avec un plat, vous allez voir. C'est un festival de parfums. Et puis, on va parler des combinaisons qu'on peut oser faire en cuisine. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Oh, on est bien à table avec Akram, un chef trait d'union entre les cuisines d'Occident et d'Orient. Il est venu avec son très beau livre paru aux éditions de La Martinière. Ça s'appelle Shirvan. Charlotte, quelle recette vous avez envie de refaire dans ce livre? Alors, je vous ai vu le feuilleter là,
oui,
ce matin.
Je suis intriguée par le, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais le xingal de champignons.
Oui.
Ça se prononce comme
oui,
ça.
Xingal de champignons, oui, absolument.
C'est quoi exactement?
En fait, c'est une pâte, c'est une raviole.
Ah oui, ça a l'air très bon.
Qu'on a retravaillée à la base, elle est faite avec de l'agneau. Nous, on l'a retravaillé avec des champignons de Paris en duxelles, noisettes avec une émulsion de beurre noisette.
Mmh,
donc, c'est un plat végétarien.
Ouais.
Et Shirvan, si vous regardez bien, il y a pratiquement 40 ou 50% de plats végétariens. Mmh. Pour nous, ça a été vraiment un parti pris de vouloir avoir sur la carte plat végétarien. Et le reste, ça se...
30 poissons, 30 animaux, j'ai vu votre carte à peu près.
C'est ça, exactement. C'est ça.
Vous avez toute une déclinaison autour du houmous aussi, que j'adore pour l'apéro, c'est hyper sympa. Plein d'idées de houmous différents.
Cette purée de pois chiches.
Oui, on fait le black houmous, par exemple. Moi, j'adore la couleur noire. Donc, du coup, ça a été un peu mon fil conducteur. Parce qu'au restaurant Akram, je travaille beaucoup de noir aussi. Du coup, on a fait un houmous noir qui est fait au céleri fumé et qui marche très très bien.
Alors ce samedi matin, bientôt midi, vous nous avez apporté ici au studio Coluche à Europe 1 un plat extrait de votre livre et on l'a en vrai.
Alors, voyage.
C'est vrai que déjà, il vient de rentrer dans le studio. Anaïs qui travaille avec nous nous l'a apporté. Ça embaume tout de suite. Voilà, c'est un festival de parfums. On va décrire cette première crêpe déjà. Hein.
Alors cette crêpe, j'ai découvert cette crêpe incroyable. D'ailleurs, elle est dans le livre. C'est Koutab. C'est une crêpe où à l'intérieur, en fait, il y a de la viande hachée d'agneau qu'on vient mettre une fine pellicule sur cette fine crêpe qu'on va venir juste griller comme ça à la plancha.
C'est de la soie pour reprendre un petit peu votre périple. Hein, on dirait
c'est ça,
de la soie,
c'est un tissu.
Pâte, hein,
voilà,
c'est ça, hein.
Un tissu. Et on rajoute au-dessus de la mélasse de grenade, grenade fraîche et sumac. Le sumac vient apporter cette acidité. Et à côté, vous allez avoir aussi le tiki. Le tiki de maïs, maïs fumé, oignon caramélisé et popcorn.
Ah, c'est délicieux, c'est croustillant à l'extérieur, moi le dedans, comme on dit.
Le tiki était bon.
Avec un jeu de texture superbe. Voilà. Un petit piquant, c'est dans la sauce, c'est ça
il
y a...
Alors le piquant, non, il est à l'intérieur. On met un tout petit peu de piment pour relever un petit peu. Et puis ça se décline en fonction des saisons. Là, c'est le maïs. Là, on va travailler la betterave. Et en fait, toute la carte se... En fait, elle change en fonction des saisons. Là, par exemple, on va faire les houmous à la patate douce. Là, donc, on est en train déjà de...
Oui, vous évoluez en fonction des produits du moment, de la saison, bien entendu. Et puis, vous n'hésitez pas à fusionner, hein, comme on le disait, les mariages entre les pays. Et je le disais, votre audace en cuisine, vous la tenez aussi de votre maman, Louisa.
Bien sûr.
Hein, vous en parlez dans le livre. Elle vous disait de ne jamais vous mettre de limites dans la curiosité.
Oui, absolument. Et c'est vrai que j'ai cette soif perpétuelle de tout regarder. Et je suis un curieux de tout. Je suis émerveillé devant tout. J'essaie de comprendre. Alors des fois, c'est difficile de me comprendre. C'est pour ça que j'ai une équipe formidable, parce que maintenant, ils me comprennent. Et c'est vrai que quand on est une équipe, j'essaie toujours de leur dire, voilà, moi, j'essaie d'apporter mes idées. On travaille tous ensemble et on essaie d'avoir cette curiosité.
Mais c'est la grande histoire, en fait, de la cuisine tout court. C'est vrai que jusqu'au Moyen-Âge, les gens ne voyageaient pas. On ne mangeait que ce qu'il y avait autour de chez nous. C'était le locavorisme absolu.
Oui.
Mais ce n'était pas très varié. Et puis, il est arrivé la Renaissance, les grands voyageurs, les produits qui sont arrivés d'Amérique du Sud, qui sont arrivés d'Inde, qui sont arrivés d'Asie, qui ont enrichi notre cuisine. Des techniques aussi. Les premiers voyages des chefs au Japon qui ont découvert les techniques de cuisson japonaise.
Ouais.
Tout ça, finalement, c'est l'histoire de la cuisine.
Bien sûr, métissage. Et c'est une richesse exceptionnelle, enfin extraordinaire.
Des conseils, tiens, pour nos auditeurs qui voudraient apprivoiser des produits qu'on retrouve dans votre livre. C'est vrai qu'on n'ose pas, je le disais souvent, avec les épices, avec les préparations. Lequel est le plus simple pour vous déjà à cuisiner?
Pour moi, c'est le tahini va avec tout. On peut l'utiliser pour le poisson, pour la viande,
pâte
en
de
dessert
sésame,
aussi. La pâte de sésame qu'on peut faire soi-même, ou sinon on l'achète. Mais si on l'achète, on l'agrémente d'une pâte d'amande, par exemple, ou d'une pâte de pistache, par exemple, ou du chocolat fondu. On rajoute ça aussi. Et c'est vraiment délicieux parce que ça apporte quelque chose d'assez, comment dire, suave, très, voilà, c'est soyeux.
Il y a beaucoup de sésame par là. Moi, je me souviens du halva aussi. Le halva à la, à la pistache, il y en a un petit peu partout. Et pour tout ça, il ne faut pas hésiter. Je pense que les gens ne doivent pas hésiter à pousser les portes des épiceries exotiques parce que je pense qu'on est toujours bien reçu quand on est curieux, quand on vient poser des questions.
Quelques-unes, tiens. Oui, vous avez raison. Parlons-en.
Oui, ce n'est pas que communautaire. Il faut y aller et puis il faut poser des questions.
Et puis, il y a des sites internet aussi. Je pense à alepmarket.com, par exemple, qui vous emmène directement chez vous. Toutes ces épices, tous ces mélanges avec leurs spécificités. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fournissent directement dans les pays concernés. Donc, ce sont des produits qui viennent de là-bas. Et puis aussi Nishikidori.com, qui est, elle, une épicerie asiatique en ligne.
Oui, absolument.
Et on peut choper des petites idées recettes au passage en discutant, c'est pas mal.
Bah, tiens, on en prend des idées recettes tiens, pour nos auditeurs Akram, qui voudraient faire du Akram à la maison ce week-end. Quelque chose de simple. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller autour de la saison ?
Quelque chose de simple. Bah, tiens, parlons de la patate douce en ce moment. Donc, c'est dans la pomme de la patate douce, il y a tellement de choses à faire. Donc là, c'est juste de la frapper avec une fourchette, de la mettre avec un trait d'huile d'olive au four, de la laisser bien caraméliser, ensuite de récupérer cette pulpe. Et donc cette pulpe, on va venir la mélanger avec, selon le poids, mettre 30% de purée de pois chiche, jus de citron, un peu de coriandre, de l'ail. On mélange tout ça et on sert ça. Et la peau, donc la peau, on ne va pas la jeter. On va la faire frire, cette peau, qui va venir se servir de chips pour venir justement
déguster. Mais je le fais souvent, ça, moi. La patate douce cuite à chaleur vive, il faut que ça bastonne entière au four, avec cette croûte, cette peau qui va devenir caramélisée. Et on a vraiment un goût de la patate douce qui n'est pas du tout à queue, comme on la ferait cuire dans de l'eau, par exemple.
Oui, à queue ou ce côté un peu farineux qu'on peut avoir.
C'est très concentré,
oui.
Eh bien, merci pour ces beaux conseils. Akram, je rappelle votre livre, amis auditeurs, si vous avez envie de voyager, eh bien, Voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes, c'est Shirvan aux éditions de La Martinière. Et vous le savez, on aime bien jouer aussi cette année. Tiens, pour gagner un mini potager d'intérieur, par exemple, qui vous permettra de cuisiner et de voyager aussi.
On peut faire des patates douces dans le potager d'intérieur.
Ah oui, il y a 70 graines qui seront livrées avec qu'on peut faire pousser. Un bruit de cuisine à reconnaître, écoutez. Alors, un mode de cuisson. Ah, un mode de cuisson qu'Akram aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. De quoi s'agit-il ? Faut que ce soit précis. Un mode de cuisson, c'est pas le wok, c'est pas la friture, c'est un autre mode de cuisson.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous revoilà. Et quelle tablée ? Charlotte Langrand ?
Oui, présente.
Olivier Pouls.
Eh bien, présent.
Eh bien, voilà, on est ensemble.
Tire-bouchon et ma bouteille.
Ah oui, voilà, on vient d'apporter le tire-bouchon. Très important. On va parler d'accords incroyables tout à l'heure avec vous, Olivier Pouls. Vous allez tenter d'accorder le rouge.
Et les poireaux, merci du cadeau.
C'est pas mal.
C'est un bon défi.
Et votre chronique bientôt aussi, Charlotte.
Ah oui, des petites douceurs un peu, oui.
Exactement, autour des céréales, on va en parler. Christophe Willem nous rejoint dans un instant. Mais tiens, avant de l'accueillir, j'aimerais vous faire écouter un autre style de musique.
Paris. Ça vient de sortir, non?
Les poules beaux, les petits gavres, un chat, l'air mutin. Tada! Vous avez reconnu?
Et Olivier qui ouvre la bouteille en même temps.
Écoutez,
et voilà!
On y est, hein?
Vous avez reconnu?
Paris.
Bah,
Paris.
C'est Miss Tinguette. Alors pourquoi je vous fais écouter Miss Tinguette ? Parce que c'est la voix des années 30 et 40 à Paris, mais c'est aussi la première marraine des fêtes de vendanges de Montmartre en 1934. Ouais. Et c'est ce week-end, la fête des vendanges de Montmartre.
Vous avez raison. 1700 pieds de vigne quand même encore à aller vendanger, une trentaine de cépages.
Quels cépages ?
Il y en a 30. on n'a pas le temps.
On va pas les compter.
Mais dedans, il y a du gamay, il y a du pinot, puis des cépages un peu plus anciens. Mais voilà, il y a un beau conservatoire de cépages. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que longtemps, ça a été considéré à juste titre, d'ailleurs, comme une infâme piquette.
Affreuse. Moi, j'habitais Montmartre.
Ils ont fait des efforts.
J'ai goûté plusieurs fois. Ils ont fait des efforts. Il y avait que ça.
S'ils nous écoutent, d'ailleurs, ils peuvent nous envoyer une bouteille.
Absolument. Il est vendu aux enchères à la mairie de Montmartre tous les ans. Ça va faire presque un siècle que le Clos Montmartre met en bouteille ses vignes chaque année. Et on a retrouvé le menu servi à l'époque pendant la fête du raisin. Ça ne s'appelait pas encore la fête des vendanges à cette époque. Et vous avez repéré quelques intitulés de plats, cher Olivier.
Il y avait du raisin. Caille de vigne au raisin, barbu au raisin, foie gras au raisin. soufflé grâce aux fruits, probablement des raisins, corbeille de fruits, café, liqueur. Voilà, ça c'était ce que vous pouviez manger en 1934 après les vendanges.
Menu préparé à l'époque par le chef Victor Jousselin et servi au Café de Madrid qui était 6 boulevard Montmartre dans le 9e. Bon, bah aujourd'hui c'est une brioche dorée à la place. Voilà. Ah. Allez, c'est le goût de l'époque. C'est l'heure de retrouver notre poulebeau de la table. Ah, on est content de retrouver tonton Jean-Luc. Jean-Luc Petit-Renaud va nous donner régulièrement son goût de l'époque. Et il vient de faire un petit tour de France des tables fréquentables. Et vous allez entendre, il est convaincu que l'âge n'attend pas le nombre des années en cuisine. La preuve avec ses 3 bonnes adresses où la jeune garde reprend le flambeau des fourneaux. Bonjour tonton Jean-Luc, vous nous aviez manqué camarade.
Oh, quel bonheur de vous revoir. Mais vous savez, je suis allé voir un peu ce que nos jeunes pousses donnaient. Eh bien, c'est concluant. Tonton Jean-Luc dit que ses petits vont bien. Le premier exemple que j'ai, le Malgré tout, c'est une ferme auberge qui est dans la forêt des Ardennes, sur la commune de Revin. C'était papa-maman qui tenait l'affaire. Et le fils a repris. On est en période de chasse. Il a pris un petit peu de ventre pour pouvoir correspondre à la réputation des beaux repas de chasse. Et là, il y a les 6 de lièvre, les magnifiques rôtis de marcassins et autres. Tous les gens qui y passent gardent un souvenir inoubliable. Un autre exemple, l'Opportun, vous savez, ce bistrot près de Montparnasse à Paris, tenu par Serge Alzeral, le roi de la tête de veau. Ça a été repris par sa fille. Mais je me suis dit, elle va se lasser au bout d'un moment. Et elle déboulait de la cuisine et arrivait avec ses andouillettes à la moutarde. Elle tient cette affaire de main de maître et ça m'a réjoui. Et puis enfin, pour terminer, c'est le petit Doucet. Oh, vous le connaissez, le petit Doucet, il est à Charolles. Il a repris le relais derrière le papa. Le papa faisait des belles viandes qu'il cuisait comme ça sur des plaques hurlantes de chaleur. Et c'était délicieux, mais c'était classique. Et lui, il a repris, il a développé cette cuisine de proximité autour de la race charolaise et il a gagné son étoile au guide Michelin. Vous vous rendez compte, c'est encourageant. Comme quoi, tonton Jean-Luc, quand il passe quelque part, il a du nez.
Ah bah oui, tiens. Eh ben ça on le sait et on va retrouver justement son goût de l'époque régulièrement le samedi à la table des bons vivants. Tonton Jean-Luc qu'on salue et qu'on embrasse. C'est vrai que j'étais en Saône-et-Loire moi cet été et j'ai pu goûter la cuisine de Frédéric Doucet qui a repris le restaurant paternel. Effectivement, il a une étoile et il a aussi un bistrot. Donc il fait partie de ces chefs qui nous emmènent dans leur univers à travers une cuisine abordable.
Et puis c'est beau cette transmission, ce passage de relais de père en fils. Il y a quand même quelque chose. La cuisine, c'est le partage, c'est la transmission.
Ouais, et puis on pense aux trois gros, Rollinger aussi. Pareil, il y a les nouvelles générations qui reprennent. Et puis je confirme sur l'Opportun, j'y vais souvent, c'est pas très loin de chez moi. Et cette transmission de père en fille est très très réjouissante, il a raison.
Et la ferme auberge du début aussi, évoquée par tonton Jean-Luc. Vous retrouverez toutes ces bonnes adresses, vous le savez, c'est gratuit. En vous abonnant à la newsletter sur europe1.fr. Vous la recevez tous les dimanches matin dans votre boîte mail et vous retrouvez nos recettes, nos adresses, évidemment les liens pour écouter le podcast. C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Alors attention, on vous offre un potager d'intérieur véritable. Non Loïc Vimard, tu n'as pas le droit de jouer. Ça fait un moment qu'il reluque ce véritable potager qui s'appelle le véritable Connect d'ailleurs, un mini potager automne. Il vous permet de cultiver des aromates dans votre cuisine. Il est accompagné de lingots, de graines bio avec un choix de 70 plantes. Vous pourrez le découvrir d'ailleurs sur véritable-potager.fr et on accueille Samy au téléphone qui va jouer avec nous. Bonjour Samy.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous nous appelez d'où Samy ?
Alors j'habite à Tourcoing dans le Nord.
Ah, et qu'est-ce que vous faites de beau le week-end en cuisine à Tourcoing dans le Nord ?
Alors le samedi midi, c'est la tradition de retrouver les enfants étudiants, donc je fais souvent un poisson, donc du bar, de la dorade, au four, voilà, avec les légumes du moment.
Et ce midi, ce sera bar ou dorade alors ?
Ce sera dorade,
très bien. Au four, voilà. Ça va vite, hein, la dorade. C'est vrai qu'on n'ose pas, mais ça va vite. Hein.
C'est toujours un succès.
Exactement. Eh ben, on vous le souhaite ce midi. On vous souhaite un succès aussi avec notre bruit de cuisine. On l'écoute.
Alors moi, je pensais en fait à une cuisson à la plancha sur barbecue, une friture de viande ou de...
Ah là, il faut choisir, parce que là...
Parce qu'entre une plancha,
vous êtes un cumulard.
C'est pas la même chose.
Vous avez fait la plancha, le barbecue et la friture.
Non, mais une plancha qu'on met sur barbecue, voilà. Donc à la plancha l'été, voilà.
À la plancha l'été. Eh ben, on va dire oui, parce que voilà, c'est une cuisson plancha, un barbecue qui fait plancha, c'est ce qu'on avait.
Bah, moi, j'ai un Weber et je mets une plancha dans le Weber.
Tout est dit, exactement, parce qu'il y a des barbecues qui se mettent effectivement avec une petite plaque par-dessus pour faire plancha. Eh ben, c'est gagné, Samy.
Merci beaucoup.
Il est à vous, le potager d'intérieur. Super. Véritable Connect. On vous envoie 70 graines bio. Hein. Il y aura tout. Il y a des tomates cerises, il y a de la ciboulette, il y a des herbes.
Il nous invitera à manger dans quelques semaines.
Qu'est-ce que tu dis ?
Il nous invitera à manger dans quelques semaines. On ira récolter, puis on fera manger.
On veut le résultat. Hein.
Et il y a de la coriandre et vous pourrez jouer à faire du akram qui était avec nous tout à l'heure en cuisine à la maison. Bravo.
Très bien. Et super, merci beaucoup.
On remet en jeu un autre potager d'intérieur tout de suite parce qu'on va rejouer après-midi, juste vers 12h15, un nouveau bruit de cuisine choisi par Loïc Vimard. Oh, dis donc, ouais.
C'est l'aspirateur. Là.
C'est pas dur, ça. Non, c'est pas l'aspirateur. Attention, on veut de la précision, ami auditeur. Jouez au 3921 ou sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Une voix, on vient de l'entendre. Un style, on vient de l'entendre aussi. C'est un artiste solaire. De plus en plus libre et cash. Hein. Il se dévoile dans un très bel album. C'est le sixième. Il s'appelle Panorama, cet album. Et notre invité, c'est Christophe Willem. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être là.
Mais je suis ravi d'être là, vraiment.
Et merci de nous donner la pêche avec ce titre.
Hein. On adore.
Ah ouais,
c'est ce qu'on
ça
se disait, on l'écoutait tous ensemble ici au Studio Coluche et on se disait, on a déjà l'impression que c'est un tube qui nous accompagnait depuis plusieurs mois et plusieurs années.
Mais ça j'adore, je vais venir beaucoup plus souvent vous voir parce vraiment agréable. Non mais c'est vrai que c'est Slimane qui a écrit ce titre et ça a été assez instantané. C'est vrai qu'on l'a envoyé je crois en mois de mai à peu près en radio et ce titre
hyper feel good.
Complètement échappé et c'est vrai que maintenant voilà, c'est un titre, on m'arrête souvent dans la rue pour me dire, ah là, ce titre, il est vraiment génial. Ouais, ça fait hyper plaisir, vraiment.
Et ben voilà, il est extrait de l'album Panorama, qui est très bien. On va reparler de l'album dans un instant aussi. On est samedi matin, bientôt midi. Qu'est-ce que vous faites en général à cette heure-ci ? Le marché, la sieste ?
Non, je mange assez tôt, en vrai. Donc plutôt midi, midi et quart, je mange. Voilà. Donc à cette heure-là, je prépare, je mets la table, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous cuisinez chez vous ?
Oh, là, je cuisine pas grand-chose. Moi, c'est un peu un drame. C'est pour ça que je suis curieux d'être ici, parce que je me dis vraiment, il faut que j'apprenne beaucoup de choses. Non, je ne cuisine pas grand-chose, mais je fais des choses très simples.
Vous ne mangez pas de l'air, vous ne mangez pas que du vide.
Non, mais des choses simples, oui, ça peut être, des énormes salades composées. C'est des choses un peu comme ça.
Eh ben, c'est très bien.
Et j'ai des phases.
Ah.
J'ai des phases comme ça, parce que je lis beaucoup de choses, de santé et tout. Donc j'ai des phases, non, je ne veux plus du tout manger cet aliment. Ah, donc je suis en boucle pendant genre un mois à ne plus manger ça. Évidemment, ça ne tient qu'un mois. Donc j'ai des phases comme ça sur le côté vegan, le côté...
Du moment, là, en ce moment, 8 octobre.
Alors la phase du moment, c'est j'ai plus le temps du tout. Donc je mange n'importe quoi et c'est la phase, on n'a plus le temps. Voilà, c'est un peu la phase en ce moment.
Ouais. Okay. Quel est votre goût de la semaine, Christophe Willem ?
Alors, le goût de la semaine, j'ai goûté là justement un fromage. Vous connaissez comment ça s'appelle la feuille du Limousin ? Vous connaissez ce fromage ?
Non, on connaît pas le fromage. Ça ressemble à quoi ?
C'est un fromage de chèvre.
Un chèvre ?
Ouais.
Un cendré, alors enveloppé dans une feuille, c'est ça ?
Je ne voudrais pas le décrire un peu coulant comme ça. C'est
bien fait.
Ouais, hyper bon. Ça s'appelle la feuille du Limousin. Et j'ai goûté ça justement. Là, je pensais que ça me ferait la semaine. Ça m'a fait deux jours. Donc, la phase, on a plus de limites.
Ça, c'est fromage.
Voilà.
Ouais, ça va.
Ça va.
Un fromage qui fait deux jours, il y a pire. Hein,
il a la forme d'une feuille, le fromage, en fait.
Vous voyez, c'est hyper bon. Vraiment.
Comme le trèfle du Perche, tiens, qui est un autre chèvre frais qui a une forme de trèfle aussi qu'on fait dans le Perche.
Je crois que je connais.
Mais c'est vrai qu'on a vraiment une richesse de fromage et de fromage de chèvre en particulier sur notre territoire qui est dingue. Alors on le disait, sixième album, Panorama, il est sorti il y a quelques semaines. C'est un album qui est né pendant le confinement, il me semble.
Exactement, ouais, un album. Alors il est né sur deux choses. L'échec de l'album précédent qui s'appelait Rio. Où c'est un album où vraiment j'ai un peu porté cet album à bout de bras pendant tout le temps. Et en même temps, la remise en question qu'il y a eu pendant le confinement. Et je pense qu'on a tous eu cette phase un petit peu de se dire « Mais quel est le sens de tout ce qui est en train de nous arriver ?» Et donc, c'est vrai, je me suis retrouvée en confinement chez mes parents en plus.
Votre chambre d'ado ?
Dans ma chambre d'ado. Donc, c'était quand même assez violent et en même temps très réconfortant.
Qu'est-ce qu'il y a comme
période.
Poster au mur encore dans la chambre d'ado ?
Ah non, alors c'est terrible parce que c'est une espèce de mausolée à mon honneur.
Ah,
si, donc j'ai l'impression que j'étais mort dans cette chambre. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre. bizarre. Vous savez que des fois, les tableaux, des fois que les fans ont pu faire il y a genre 15 ans, vous voyez, et ma mère a accroché ça.
Ah
donc
oui.
C'était très particulier. Mais c'était réconfortant d'être aussi avec la famille pendant cette période-là. Donc en vrai, c'était plutôt bien. Et ça m'a donné envie de faire un album où je laissais un peu de côté mon métier, qui des fois avait pris beaucoup de place, et de me reconnecter à ma passion. Et quoi de mieux que de me reconnecter à ma passion dans ma chambre d'ado avec mon piano que j'avais, sur lequel j'ai appris à jouer du piano. Donc c'était assez salutaire en fait comme période.
Je tomberai pas, fantôme, un peu comme toi et moi, tiens bon, voilà quelques titres qu'on retrouve dans cet album. Je vous en ferai écouter un tout à l'heure que j'ai repéré en venant en voiture et en préparant l'émission. Alors, vous parlez de vos phases en cuisine.
Oui.
ça vous arrive d'avoir des phases céréales ?
Ah oui.
Oui,
si, ça peut m'arriver.
Parce que Charlotte Langrand, à vos côtés, a envie de parler de céréales.
Ah.
Mais je ne parle pas des céréales et des frosties du petit déjeuner saturé en sucre.
Hein. Ah non, mais j'espère bien.
C'est
parce
pas
que
mon
là...
style. Ah non, mais non.
Ah non.
Non, mais vraiment. Non, je vous parle, moi, à partir d'un très joli livre qui vient de sortir, qui s'appelle Céréales, donc.
Ah.
Chez Flammarion, c'est 30 euros. C'est le premier opus de la chef Manon Fleury qui cuisine au perchoir Ménilmontant à Paris jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas que le blé et le riz dans la vie, Christophe, elle nous explique comment cuisiner le petit épeautre, la marante, le millet, le maïs, le friquet, le teff, toutes ces céréales qui sont un peu les grandes oubliées de la haute gastronomie parce qu'elles sont considérées comme des produits pas assez nobles. Alors qu'on va devoir en manger de plus en plus à l'avenir parce
oui.
que bah, l'alternative à l'alimentation carnée,
c'est,
bah voilà, c'est végétal.
Il faut végétaliser notre alimentation.
Alors voilà. Moi, on m'avait dit que les protéines végétales, quand elles étaient coupées avec des céréales, c'est là qu'elles avaient un bon apport.
Exactement,
ah,
c'est
très
ce qui remplace la
suivi.
Protéine animale. Vous êtes très bien suivi.
Exactement, elles sont bonnes pour la santé et très diversifiées. D'ailleurs, il n'y a pas que Manon Fleury qui l'a compris. Hein. On pense aux Brass, qui viennent de sortir un très beau livre d'ailleurs sur leur cuisine, et à la chef Jennifer Hart-Smith aussi, qui est naturopathe.
Alors, c'est vrai que le livre est assez pédagogique. Il y a même des filles d'identité des céréales, et c'est ça que j'aime parce qu'il y a de la pédagogie.
C'est ça, c'est très utile parce que comme on les connaît mal, on les cuisine peu, c'est normal. Elles font pourtant partie de notre tradition agricole depuis très longtemps, ces céréales, et d'ailleurs il y a beaucoup de nouvelles productions de céréales à l'ancienne qui réapparaissent dans les campagnes actuellement. Tout pousse donc à les apprivoiser, elles sont peu chères, elles sont souvent sans gluten, si vous avez une phase sans gluten bientôt, et elles se prêtent à des recettes toutes douces pour l'hiver. Alors on en met dans les soupes, dans les gratins, dans les purées, dans les sauces en fait.
Oui, donne de la consistance, mais ça, c'est,
mais oui.
ça date de nos anciens, hein. C'est
mais oui, mais
les bouillies paysannes.
On n'y pense
de là.
Plus tellement. Donc, je vous donne quelques exemples du livre. Orge crémeux à la carotte et aux agrumes,
ah
potimarron
oui.
farci au millet, velouté de chou-fleur petit et petit épeautre, volaille pochée au bouillon de maïs. Il faut juste avoir un petit peu de temps quand même, parce qu'on doit souvent les laisser tremper, reposer. Mais bon,
c'est
on
long
a
à cuire souvent
oui,
aussi.
C'est vrai, mais bon,
ça, c'est vrai.
On réapprend la patience en cuisine.
Il faut
c'est
les tremper un
mal.
Peu parfois aussi.
Voilà, ben, on laisse faire la nuit. On commence
oui.
à la veille, on laisse faire la nuit, puis c'est très bien. Et ça en vaut vraiment la peine.
Exactement.
Voilà, c'est vrai.
Eh ben,
mais oui,
ça en vaut
pareil.
La peine.
Voilà.
Comme
et je vous offre le livre
ah, très bien.
Pour votre prochaine phase.
Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup.
Et merci Charlotte. Et je rappelle qu'on vous lit dans le journal
oui.
du dimanche. De
demain.
Quoi qu'on cause demain.
On parle de petits biscuits.
Oh.
Petits biscuits grandes envies.
Oh. Quel programme. vous êtes plutôt pâte ou riz, tiens d'ailleurs, à propos de céréales, vous, Christophe Willem.
Plus riz peut-être.
Si.
On peut combiner pas mal de choses. Vous parliez des salades composées. C'est vrai que c'est un très bon support, hein, le
ah,
riz.
Mais carrément. Non, mais en fait, bah, je parlais aussi de tout ce qui est haricots, ce que je vais assez souvent au Brésil. Et là-bas, c'est vraiment la base,
ah, oui.
c'est le riz et les haricots.
Enfin,
donc,
c'est même pas le riz, c'est les riz. Parce qu'en réalité, il y a de quoi jouer aussi
ah,
avec
oui.
le
ah, mais bien
avec
sûr,
le riz, entre les riz rouges, les riz sauvages, les riz noirs.
Et en France,
les riz
on fait
complets.
Très bon riz du côté de la Camargue.
Absolument.
Hein,
ouais.
Voilà, le riz rouge de Camargue.
Ça, c'est hyper bon.
C'est très, très bon. Al dente, c'est magnifique.
J'écoute votre émission depuis des années et j'ai complètement changé ma façon de cuisiner depuis que je vous écoute.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
J'aime manger, je suis gourmand moi. Je ne suis pas gourmet, mais je suis gourmand.
Attendez, je vais vous resservir.
Laurent Mariette.
Bon samedi midi à table avec nous. Un gourmet, c'est un gourmand qui se contrôle. C'est ce que disait Francis Blanche dans ses mémoires. Bienvenue hein, si vous arrivez et merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Christophe Willem est notre invité. Il est venu nous voir avec un très bel album qui s'appelle Panorama. Et il est en tournée aussi, Christophe.
Exactement. Enfin, à partir de janvier, là. Et en plus, on vient de rajouter pas mal de dates.
Bah,
je suis vraiment très nouvelle.
7 octobre au Dôme de Paris. Très, très belle salle. Hein.
Très première fois pour moi là-bas.
Magnifique.
magnifique. Je suis assez excité.
Qu'on appelait le Palais des Sports.
Exactement. Ouais.
Le 2 décembre au Zénith de Lille. Et puis vous serez en concert aussi en 2023, mais on peut déjà prendre les places maintenant. Ce sera le 18 mars à la salle Pleyel à Paris. De très beaux écrins à chaque fois, Christophe Willem.
Mais en tout cas, je suis très excité. Vraiment très excité de retrouver le public dans ces très belles salles. Ouais, vraiment.
Alors, vous êtes venu nous voir avec votre dernier album qui s'appelle Le Panorama. C'est le sixième album. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, je trouve, dans cet album.
Je sais ce que vous allez me dire.
C'est votre album le plus personnel, moi, je trouve. Hein, j'aime bien ce que vous faites. Mais vous avez fait appel à des auteurs. Ça veut dire quoi? Que c'est plus facile de faire appel aux autres pour parler de soi?
Alors, il y a de ça. Et il y a aussi que moi, j'avais au début, j'avais commencé à écrire pas mal de choses. Alors, je voulais un album plus direct, un peu plus cash. Et en fait, j'accorde trop d'importance à l'esthétique des mots. Et souvent, voilà, ça atténue un peu le poids de ce que je veux raconter. Donc en fait, très vite, je me suis dit, pour ne pas tomber dans cet écueil-là, il fallait vraiment que je confie l'écriture à des auteurs. Mais ça a donné des heures et des heures, vraiment même des mois d'échanges avec eux. Parce qu'en plus, j'ai choisi que des équipes que je ne connaissais pas du tout pour qu'il n'y ait pas non plus d'affect qui viennent adoucir un peu ce que je voulais raconter.
C'est des thèmes qui nous parlent tous. Hein. Ça parle parfois du manque de confiance, des doutes qu'on peut traverser, qu'on peut avoir dans la vie, de l'obstination qu'il faut avoir aussi pour dépasser certains moments. Il y a un titre que j'aime beaucoup, moi, que j'ai encore écouté en venant dans la voiture, qui s'appelle « Tiens bon ». Je voudrais qu'on écoute parce que j'aime bien l'ambiance, la mélodie.
Tiens bon. Ce titre, c'est Cocoon qui a signé ce titre et David Scrima au texte. Et j'aime vraiment aussi. En fait, c'est exactement ça. Pour moi, Panorama, c'est un album, c'est une ode à la résilience, en fait. C'est une logique de se dire, dans la vie, il y aura forcément des bons moments, des mauvais moments, mais rien n'est immuable. Et donc, il faut essayer de ne pas se focaliser sur les choses négatives pour pouvoir les accepter, les évacuer et avancer et passer à autre chose.
Et puis ça, c'est vous, c'est votre style qu'on retrouve, parce que vous parlez de choses un petit peu difficiles qu'il faut surmonter parfois, mais toujours avec une musique légère. C'est quoi? C'est du ukulélé?
Oui, c'est une sorte de ukulélé qu'on entend. Et mais c'est ça, pour moi, c'est exactement ça. Et c'est un peu le reflet de ma philosophie. Dans la vie, il faut aborder tous les sujets de front, ça sert à rien de les éluder. Et une fois qu'on les aborde et qu'on les accepte, on peut vraiment passer à autre chose. Et c'est vraiment le thème de cette
légèreté.
Lucidité et légèreté.
Et parce que je pense qu'au niveau choses compliquées, on en a suffisamment autour de nous, dans les médias, partout. Et voilà, il faut aborder les choses, pas les éluder encore une fois, mais le faire avec optimisme.
Et ben nous aussi, on aime aborder les choses de front. Et je peux vous dire qu'on va aborder un plat du jour de compétition. Et je vous présente Sonia Esgulian.
Bonjour,
qui est avec
enchantée. Bonjour Sonia.
Bonjour Sonia.
Bonjour à tous,
c'est
un grand plaisir.
Merci d'être là. Hein, vous avez votre ronde-serviette ici, on vous connaît Sonia. Vous avez été une grande chef lyonnaise. Vous écrivez beaucoup de livres de cuisine qui sont à chaque fois des succès. Et vous mettez effectivement l'anti-gaspi, l'art de la récup, la débrouille au centre de vos livres régulièrement.
L'astuce, parce que ce qui me plaît, moi, c'est la contrainte du quotidien. Beaucoup de gens se plaignent sur le quotidien. Moi, ce que j'adore, c'est d'avoir des contraintes, justement, de ce côté un petit peu rébarbatif. Et ça me donne des idées, comme cette recette que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça me donne des idées pour trouver des petites choses qui vont twister la recette et qui vont faire que la recette est différente, mais très simple à réaliser. Ça, j'y tiens beaucoup. Comme à chaque fois.
Une recette autour du poireau. Vous allez voir, on va le relooker, Christophe Willem, avec Sonia Esgulian. C'est une recette que j'ai trouvée dans votre dernier livre, qui sort le 12 octobre. Alors, il s'appelle Seconde Main. Alors, c'est la première fois que je vois un livre pareil, parce que, écoutez bien, chers auditeurs, et Olivier et Charlotte, les recettes sont inspirées par les contenus. Par les contenants.
Les contenus
sont inspirés par les contenants.
En fait, celui qui a eu l'idée du livre, c'est François Motte. Il est collectionneur d'assiettes, de plats, etc. Il est passionné par l'histoire de ces plats. Moi, j'ai appris plein de choses sur le mazagran, les rondes serviettes, sur la barbotine. Je ne suis pas une grande brocante. Enfin, je ne sais pas très bien faire les brocantes. Mais j'ai appris justement l'histoire de ces plats. Et surtout, il m'a demandé d'imaginer des recettes à partir soit des formes, soit de l'histoire des plats. Et c'était très très drôle. Par exemple, je vais vous donner un exemple, il y avait des soupières qui avaient des drôles de formes de poissons. Et ça m'a inspiré une recette assez amusante de petits raviolis qu'on allait pêcher avec une petite épuisette en métal. Parce que ces poissons étaient tellement drôles avec leurs yeux globuleux que je me suis dit qu'il fallait absolument une recette rigolote.
Ça s'appelle Seconde Main, c'est paru chez Hachette Pratique. Alors le plat du jour autour du poireau, on va le décrire ce plat.
Alors c'est un poireau vinaigrette. Mais un poireau vinaigrette.
Un peu dopé quand même.
Voilà, alors l'idée c'était que, en fait, pour le livre, j'ai réalisé un poireau vinaigrette pour Noël. C'est un peu insolite de penser au poireau vinaigrette à Noël. Et je me suis dit que quelqu'un qui avait envie de faire une recette très simple et très basique, je viens de Lyon. Et à Lyon, il y a la fameuse poularde de Mideuil. Et j'ai eu l'idée pour Noël de mettre sous une lamelle de poireau des petites tranches de truffes très très fines. Pour cette recette aujourd'hui, comme on n'est pas du tout à Noël, j'ai choisi de mettre des cèpes.
des mousserons, un tout petit peu d'estragon. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est la vinaigrette. En fait, ce sont des échalotes que j'ai fait suer très légèrement, déglacées avec un jus de veau. Et ensuite, il y a simplement un petit peu d'huile et de vinaigre de Banyuls.
Revenons à l'origine de cette recette, à l'inspiration, parce que la volaille de Mideuil qu'on peut déguster, par exemple, entre autres chez Bocuse, c'est une volaille avec de la truffe, comme on dit, contisée
hein, sous la peau. Donc c'est-à-dire on soulève la peau très légèrement, on glisse les lamelles de truffe. Et en fait, je prends exactement le même principe. Je fais cuire les poireaux à la vapeur, je décolle tout doucement une lamelle de poireau.
La première couche.
Ouais, la première couche, mais vraiment très, très délicatement. Je pose tout ce qu'on veut. Alors, j'en ai fait à plein de choses. On peut mettre, par exemple, des pétales de fleurs, on peut mettre des champignons. Je vous conseille d'essayer également avec de la poutarde. On peut mettre plein de choses. On redépose la lamelle. Ça fait très joli dans un plat, ça a beaucoup d'effet.
Et l'estragon, le mariage estragon poireau cèpe, c'est la première fois que je goûte ça, c'est sublime ça.
Merci, merci beaucoup.
On mettra d'ailleurs une vidéo sur les réseaux sociaux d'Europe 1 parce que vous avez filmé cette recette et on vous mettra.
Oui, parce que je tiens à montrer que c'est extrêmement simple parce que le résultat est bluffant. Tout le monde me dit non, mais ça je pourrais jamais refaire. Et vraiment, j'assure qu'on peut refaire.
Ce qui est encore plus bluffant, c'est que je trouve que j'ai redécouvert dans le livre à quel point les vaisselles pouvait être expressive avant
et
qu'on n'en a plus du tout des comme ça. Parfois, elles étaient quand même très, très, en forme de poisson. Et il y avait des assiettes, donc, avec des asperges incrustées à l'intérieur, donc en porcelaine.
Mais là, par exemple, ces jolies assiettes ça, c'est par exemple des assiettes de Sarreguemines. La couleur, franchement, c'est vraiment très, très beau.
Des losanges jaunes, c'est ça qui vous a donné envie d'accorder le poireau ?
Exactement. Avec les petits croisillons d'estragon, je trouve que c'est très, très inspirant.
Mais le poireau, on dirait l'incrustation de la porcelaine.
Complètement,
c'est génial.
Complètement.
Qu'est-ce que vous en pensez ? On vous entend plus, Christophe Willem.
C'est exceptionnel. Mais alors moi, qui ne sais pas du tout cuisiner, non, mais c'est vrai que là, c'est hyper bon et tout est beau. Enfin, c'est bon, c'est beau à voir. C'est magnifique.
Et c'est pas compliqué, on le redit. Combien de temps prend la cuisson vapeur du poireau ?
20 minutes, parce que les poireaux, ce sont des petits poireaux que j'ai piqués dans le jardin de mon papa. C'était des poireaux de petit calibre. Et je les ai mis 20 minutes à la vapeur. Et ça permet de décoller très, très facilement la première lamelle. Et après, vous pouvez les déguster.
Et on rappelle les ingrédients de cette vinaigrette relookée et retwistée.
Vinaigrette ultra simple, mais je la voulais un petit peu gourmande et onctueuse. Des échalotes que j'ai coupées très finement, on dit en brunoise, on essaye de couper en le plus petit dés possible. On met à suer avec un tout petit peu de beurre, vraiment très peu. Dès qu'elle commence à devenir translucide, on ajoute le jus de veau, on met de l'huile, alors moi je mets l'huile de pépins de raisin, un petit peu de vinaigre de Banyuls, de l'estragon évidemment, je hache de l'estragon. Et voilà, et c'est tout.
Que des choses compliquées à accorder avec du vin
rouge. Aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, il y a quelques produits et c'est difficile, mais je pense que j'ai réussi un truc qui n'est pas trop mal. Et avec c'est un peu le jus de veau en fait, qui m'a donné l'idée, qui fait le pont avec le vin. Je me suis retourné vers les Côtes-Rouennaises. On parlait de Lyon, de la grande région lyonnaise. Et c'est un cépage, c'est du Gamay. Et donc c'est un cépage qui est relativement élégant. Il n'y a pas de tanin dans ces vins. Il ne faut surtout pas aller chercher du tanin. Il faut chercher une forme d'élégance, un joli fruit. Et je trouve qu'on a une confrontation qui marche assez bien. Le vin est respecté. Et le plat n'est pas contrarié non plus par les
tanins. Est-ce que le vin est respecté, Christophe Houlem?
Non, mais attendez, je viens ici à chaque fois que vous vous voyez ensemble, parce que c'est exceptionnel. Non, tout va très très bien.
Parce que vous n'aimez pratiquement que le rouge.
Que le rouge. C'est vrai que je n'aime pas du tout le vin blanc. Mais là, c'est, l'accord est parfait. Je trouve que vraiment, c'est délicieux.
Et merci infiniment, Sonia Esguillon. On retrouve cette recette sur nos réseaux et surtout dans votre livre Seconde Main, 32 tables de fêtes chinées et autant de recettes qui vont avec. C'est chez Hachette Pratique, Hachette Cuisine.
Merci
à vous, Sonia Esguillon. Absolument. C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. On vient d'offrir un potager d'intérieur tout à l'heure à Samy. C'était un mode de cuisson représentant la plancha et le barbecue qu'il fallait deviner. Et maintenant, on joue avec un autre bruit de cuisine.
Le sèche-cheveux.
C'est pas le sèche-cheveux et c'est pas non plus l'aspirateur. Et nous avons avec nous Karine. Bonjour Karine.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où Karine?
De Normandie, dans l'heure.
Oh, et qu'est-ce qu'on cuisine de beau ce samedi midi en Normandie?
J'ai 4 enfants et les enfants, c'est difficile de leur faire manger des pâtes, donc j'essaye d'accommoder toujours les autre chose que des pâtes, pardon. Donc j'essaye d'accommoder à chaque fois les pâtes de différentes manières pour leur faire découvrir d'autres légumes avec.
Brocoli, gorgonzola, essayez, ça marche avec des noisettes concassées par-dessus, ça marche très très bien ça. Alors de quel bruit s'agit-il, Karine? On vous écoute.
Alors je suis pas sûre, mais on dirait le bruit d'une centrifugeuse.
Ah oui, oh là, oui, ça devient technique, là, effectivement. Ouais. Oui, non, les ustensiles qu'on utilise, la centrifugeuse aussi, vous allez me dire, mais nous permettent d'avoir une préparation en cuisine. C'est pas simplement des presse-agrumes. Oui, Sonia et Christophe ont peut-être trouvé. Ben, merci d'avoir... on va vous envoyer le livre de Sonia.
On a gagné.
D'accord.
On vous envoie le livre de Sonia, seconde main, pour vous. Merci, Karine,
d'avoir joué avec nous.
Et on rejouera avec ce bruit de cuisine samedi prochain. Ne bougez pas, on revient dans un instant, toujours, avec Olivier Pouls, qui a un jeu pour nous autour du vin. Une sorte de blind test viticole.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, ça passe vite, hein, le temps passe vite. Bientôt midi et demi sur Europe 1. C'est la dernière partie de notre belle tablée avec Christophe Willem, qui est venu nous voir avec son album qui s'appelle Panorama. Il est des nôtres et il sera bientôt des vôtres, Christophe Willem, puisqu'il est en tournée dans toute la France. Je le disais, le 7 octobre au Dôme à Paris. En tournée dès janvier, il y aura le 4 mars à Clermont-Ferrand, le 11 mars à Annecy. Et en concert le 18 mars 2023 à la salle Playel à Paris. Comment vous vous préparez d'ailleurs avant un concert? Il y a un petit rituel au niveau de ce que vous mangez?
Alors je mange très tôt, pour le coup vers 18h, même des fois 5h30. Donc voilà, 17h30, 18h je mange pour pas du tout être lourd sur scène. Et c'est plutôt, on parlait de pâtes tout à l'heure avec l'auditrice, c'est plutôt voilà, des sucres lents, il faut tenir.
Il faut la pêche quand même.
Ouais, vraiment. Et moi, je bouge beaucoup sur scène, je vais souvent dans la salle, donc il faut vraiment que je tienne. Et par contre, je déteste manger après.
Il y a votre voix aussi quand même qui est marquante dans cet album, dans Panorama. Et je me faisais la réflexion encore en l'écoutant tout à l'heure. Votre voix, il se passe un peu ce qui s'est passé avec Nolwenn, je trouve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux États-Unis, ils avaient fait une étude autour de la voix de Nolwenn. Elle avait des vertus apaisantes. Elle faisait du bien à des enfants qui étaient un petit peu en suractivité. Et votre voix, elle a ce côté-là, elle a ce côté apaisant. On vous en parle de ça
beaucoup.
Un petit peu ou pas?
J'ai une fois quelqu'un qui s'occupait d'enfants autistes. Réellement, et qui m'avait dit, écoutez, il y a vraiment, c'était à l'époque de Jacques Addy, pour dire, il m'avait dit, c'est incroyable, quand on met cette chanson-là, on arrive vraiment à voir les enfants beaucoup plus posés, beaucoup plus apaisés, et du coup, j'avais essayé justement pendant quelques temps d'essayer un peu d'instaurer un travail avec cette personne, mais après, il n'y a pas d'études là-dessus.
Vous la travaillez, cette voix ?
Pas du tout. Non, mais vraiment, j'ai aucun mérite, je ne la travaille pas du tout.
C'est un don.
Mais en revanche, je fais assez rigoureux en tournée. Évidemment, je ne bois pas, je ne fume pas. J'essaie d'avoir une hygiène de vie assez bonne. Et il faut vraiment que je dorme 8 heures. En fait, voilà, mon instrument, c'est mon corps, d'une certaine manière. Et il faut vraiment 8 heures de sommeil. En dessous de 8 heures, je ne peux pas le maîtriser comme je veux.
Eh bien, écoutez, Panorama, c'est un album qui fait du bien.
Merci beaucoup.
Je vous représente Olivier Pouls en face de vous. Alors, lui, il travaille sa voix uniquement avec des grands crus, des
mais
grands cépages.
Et c'est à cause de lui que je suis arrivé en bafouillant depuis tout à l'heure. Mais là, plus le temps passe, plus je bafouille. J'arrive plus du tout à en placer correctement.
Avec plaisir et avec modération, bien
aussi.
Entendu.
Évidemment.
Vous êtes joueur aujourd'hui. Vous avez envie de faire un blind test viticole.
On a un chanteur, ça me fait quand même plaisir. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup les réseaux sociaux, ce qui tourne en matière de musique.
Ah si, de temps en temps.
Alors peut-être avez-vous entendu ça. Hey yo, peace to the good, peace VSN. A salutation we extend. They got another fire pack for your alors rap. Ceci, c'est A State
Daniel
of
Guichard.
Mind. Pas tout à fait. ASM, et c'est un groupe qui mêle le rap et les vins nature. Sinon, qu'est-ce que ça viendrait faire dans ma chronique?
Ah oui.
Eh bien, ce sont des rappeurs qui vantent les vertus et les mérites du vin nature. Et ça fait un carton.
Et comment il s'appelle ce groupe?
ASM.
Mais c'est bien, je trouve, en termes de son.
Et alors, ça m'a donné une idée de vous faire un petit blind test, parce que vous savez qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui ont chanté le vin, qui aiment le vin. Et je vous en propose quelques-uns. C'est pas très compliqué. Allez, écoutez celui-là. Voilà.
Que vienne le temps du vin coulant.
Ah, c'est oui, Brassens.
Brassens, oui.
Mais quel titre?
Évidemment. Le vin, tout simplement.
Ah, bah, tout simplement. Comme ça englobe tout, pour le coup. Il n'y a pas
de choix.
C'est simple.
Voilà, le vin qui coulerait dans la Seine et on y viendrait noyer sa peine. Allez, deuxième extrait.
C'est beau.
Plus compliqué.
Strawberries, cherries,
ah, c'est beau, ça.
Bah, c'est...
Nancy Sinatra.
C'est ça, ouais, ouais. Nancy Sinatra.
La superbe voix de Nancy Sinatra.
Parce qu'on connaît dans la voix de Bang Bang, c'est ça qui ouais, m'a accroché.
Elle avait la chorégraphie, Charlotte Langros.
Oui, mais ouais. Oui, oui, oui.
J'ai essayé de chercher.
Et le titre s'appelle Summer Wine. Et c'est une jolie description
beau, ça, ouais.
D'un vin d'été. Voilà.
Qui a avec été repris Lee, par Clara Luciani, si je ne me trompe pas.
Je crois, oui.
Ouais, en duo.
Un troisième petit, hyper simple. Hein.
Jimmy Cliff.
Non.
UB40, oui, c'est UB40, ça.
UB40, évidemment.
J'allais dire UB40. Ouais.
Mais oui, c'est Jimmy Cliff, oui, pardon.
Et alors, là, j'ai plié les gaines tout de suite. Ah, bah, évidemment.
Et Laurent, j'en ai un petit dernier pour vous. Parce que
mais attends, c'est quoi là? C'est Reggae Night, ça, c'est ça?
Non, c'est Red Wine.
Ah, j'ai compris Reggae Night, parce que Reggae Night, c'est
non,
Jimmy
Cliff. Non, mais parce que vous êtes comme moi, et moi, à l'époque, je comprenais rien. Je pensais qu'il disait Reggae Night.
Non, Red Wine. Le vin rouge. Allez, il est venu ici deux fois, je crois.
Je cherche une fillette en vin
Perret.
Qui m'aime autant que j'aime le vin. Qui boira
Pierre Perret.
Qui a une très belle cave.
Eh oui.
Ah oui. Et qui nous a raconté ici à cette table à votre place, Christophe Willem, une anecdote incroyable. Vous vous souvenez,
oui, qu'il avait bu, je crois, des Romanée Conti 1945.
Pour le passage à l'an 2000.
Pour le passage
avec
à l'an 2000,
Alain Decaux. Ouais. Et ils avaient deux bouteilles et ils ont ouvert les bouteilles en se disant pourvu qu'elles soient bonnes, tu m'étonnes.
Ah, bah, c'est clair.
100 ans.
Voilà, on a chanté.
Merci
le vin.
Merci Olivier,
les amis.
Très bonne idée ce petit blind test, c'était très bien. Mais Christophe, ne bougez pas parce que.
Je vous passe sur avec mon verre.
Hydratez-vous,
pas.
C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Christophe Willem?
Poulet frites.
Classique.
C'est classique, ouais, c'est le menu du dimanche chez mes parents, il n'y a
c'est
rien
efficace,
de mieux
hein.
Pour moi. Ah bah, les frites maison et tout, le bon poulet fermier.
Parfait. Votre plus beau repas?
Plus beau repas? Oh, alors là, c'est pas... là, je cale un peu. Parce que le plus beau repas, je ne suis pas gourmet, moi. Donc en fait, c'est plus une logique. Pour moi, le repas, c'est partagé avec des gens.
C'est le moment.
Ouais, c'est le moment. Donc ça peut être surtout identifié par rapport à avec qui j'étais au moment. Je déteste manger avec des gens que je n'aime pas. Non, mais
ah bah, pareil.
Non,
pareil.
Mais on est d'accord.
Ah bah, on préfère annuler un rendez-vous dans
mais
ce cas-là.
Je trouve
ah
que oui. Manger, voilà, c'est partager un moment. Et je préfère ne pas manger du tout que partager avec des gens que je n'aime pas.
Votre pire repas?
Les sandwichs sur les aires d'autoroute pendant les tournées, c'est un cauchemar.
Les triangles.
Oh, ah oui. Mais c'est un drame.
Ah, on n'arrive pas à s'en sortir de ça. Hein. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Christophe Willem?
Qu'est-ce qu'on trouve? Du fromage, ça c'est sûr.
La feuille du Limousin.
Voilà, la feuille du Limousin. Non, des légumes, du skyr. Parce que des fois, quand je suis dans les phases un peu sport, c'est pas mal.
C'est le yaourt islandais, ça?
Oui, je crois.
Oui, c'est ça.
Très protéiné. Ouais, très protéiné.
Très peu
comme vous pouvez
grasse,
voir
ouais.
Sur moi, évidemment, on voit bien la masse musculaire.
Ça marche
vraiment bien. Le mec est complètement contre-productif.
Mais non, ça gagne. C'est le yaourt qui gagne.
Mais voilà, salade, tofu, dans mes phases un peu vegan. Ce qui n'est pas tous les jours, hein, je le précise.
Votre adresse secrète?
Mon adresse secrète? Ah oui, j'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise. Donc j'aime bien ça et j'ai un tout petit resto parce que j'ai mes parents ont une maison de famille à côté de l'Aïol. Vous voyez vers
dans l'Aveyron.
Oui. Et il y a un tout petit resto qui s'appelle Au Petit Creux et là on mange vraiment le meilleur aligot d'Aveyron. C'est vraiment
qui file.
C'est vraiment les farsous. Enfin c'est vraiment la cuisine que j'aime.
Bah tous Au Petit Creux. Et le mot de la fin, FIM.
Le mot de la fin, bah c'est le à table. Parce que le peu de fois où je fais à manger, ça me rend hystérique que les gens n'arrivent pas au moment où c'est prêt, parce que je ne veux surtout pas réchauffer pour ne pas tuer le goût.
Parce qu'on s'est donné du mal. Donc bah,
évidemment,
la moindre des politesses, c'est d'être là à l'heure. Voilà.
Et pareil, je déteste démarrer un repas s'il n'y a pas tout le monde. Voilà.
Eh ben merci Christophe Willem. On était content de vous avoir.
J'étais ravi d'être avec vous. Vraiment.
Panorama, vous serez le 18 mars 2023 à la salle Playel à Paris, le 24 mars 2023 à Rennes et le 7 octobre, nouvelle date rajoutée, 7 octobre 2023 au Dôme de Paris.
Exactement.
Merci Christophe.
Merci beaucoup.
Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef avec Anaïs Kerdraon et Julien Amat. Claire Dutronc à la programmation, à la rédaction et au quiche. Loïc Vimard à la réalisation. Et on se retrouve samedi prochain. Bon week-end sur Europe 1. Salut Charlotte Landron.
Salut Laurent, salut Olivier.
Salut Olivier
Pouls.
Bon
week-end les amis.